Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. En effet, pour parler temps qui court, tous les soirs, un ou une artiste pendant une heure. Ce soir, Katinka Bock.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
Marie Richeux avec Katinka Bock.
Comment t'expliquer que l'on se tienne à telle ou telle distance d'une sculpture dans une exposition? Comment négocie-t-on cette relation-là? Et comment notre attention circule-t-elle entre les formes lorsqu'il ne nous est pas vraiment donné de narration ou d'ordre? Et pourquoi l'on s'attarde ici plutôt que là? Pendant combien de temps? Est-ce que les œuvres créent un temps pour nous? Est-ce qu'elles ont une forme d'aura? Quel genre de vie rajoute-t-elle à la vie? Quel genre de vie remet-elle en circulation dans la vie? Alors je peux témoigner qu'une enfant de 2 ans, hier, circulait dans la galerie Jocelyn Wolff à Paris, où vous exposez en ce moment Katinka Bock, et que ses déplacements ne faisaient pas que répondre à l'interdiction de toucher. Manifestement, quelque chose de la pensée de l'espace et des formes lui indiquait des choses. Agissez. Thé toxique est une très belle exposition qu'on peut voir jusqu'au 15 juin. Bonsoir à vous et bienvenue.
Merci. Bonsoir.
Est-ce que c'est une question à laquelle on peut tenter de répondre comme ça, au débeauté, avec vous, Katinka Bock, après toutes les questions que j'ai énumérées, à savoir qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui n'a pas la connaissance des règles d'un musée, d'une galerie, qui ne sait pas ce que c'est qu'une œuvre d'art, qui voilà, n'a pas plus d'égard que ça avec les choses de l'art, va comprendre qu'il faut circuler d'une certaine manière dans l'exposition?
Je pense que ce sont des mêmes réflexes qu'on a quand on se tient dans un groupe de personnes, quand on est dans la rue, quand on est au supermarché. On est habitué à être entouré de choses et de personnes, d'architecture et de frontières, et on cherche à trouver sa place là-dedans. Et je pense que dans une exposition, c'est à peu près pareil.
Et vous voulez dire que vous pouvez créer un espace au milieu duquel on va mettre en route ces instincts-là, ces instincts de négociation avec la frontière, ou alors vous posez des choses et nous, instinctivement, nous négocions cette relation?
Je pense que c'est un peu les deux, parce que avant que c'est votre place, c'est ma place dans l'atelier à créer ces sculptures, ces œuvres, et je me pose beaucoup cette question de son emplacement et de sa position, et s'il est par terre, donc plutôt en relation avec les pieds, ou s'il est en hauteur, s'il est suspendu, s'il est dans un coin, et ces décisions sont après tout à fait conscients et exprès pour provoquer une relation avec celui qui visite et qui regarde. Et c'est vrai, c'est plutôt le regard et de marcher, de circuler dans un espace qui m'intéresse que le toucher même.
Est-ce que, par exemple, l'idée d'une aura, alors c'est pas un bon mot, j'ai pas trouvé ce que je cherchais exactement, mais en tout cas, quelque chose dont émane une autre chose qui nous ferait ne pas dépasser certaines limites. Alors voilà, c'est aura que j'ai trouvé, mais si par exemple il s'agissait d'un être humain, peut-être que je parlerais d'espace vital ou d'espace singulier. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle si on évoque ça pour des sculptures?
Oui, ça me parle beaucoup. C'est intéressant que vous parliez donc de cet espace qui appartient à chacun.
Exactement.
C'est à peu près 50 centimètres. Et si une personne se rapproche, qu'on ne connaît pas, trop proche, il passe dans ce champ intime. Et ça nous crée soit un effet agréable ou désagréable, mais en tout cas, ça fait quelque chose. Et je crois qu'on a ces intuitions depuis le plus jeune âge. Et comme adulte, on apprend beaucoup plus à prendre distance. Mais désormais, je crois qu'aussi un enfant, il a ses intuitions et ses connaissances quand quelque chose est fragile ou quand quelque chose est rigide. Et il a pas toujours besoin d'entendre les interdictions pour agir d'une manière juste.
Quand on entre dans cette exposition, si on est curieux, on peut se procurer une feuille sur laquelle il y a un extrait de poème, puis elle s'épanche, mourante, en un flot de triste langueur qui, par une pente invisible, descend jusqu'au fond de mon cœur. Et juste après, c'est un extrait d'un poème de Baudelaire, et juste après, il y a comme une sorte de réponse faite par une femme qui vous remercie d'avoir donné ces mots de Baudelaire comme un accueil. Donc c'est déjà une relation, c'est déjà un échange en fait qui nous accueille dans l'exposition. Est-ce que vous pensez les choses de cette manière-là? Est-ce que vous accueillez des gens dans un espace d'exposition? Est-ce que vous pensez les choses comme cette dynamique d'accueil?
Oui, et peut-être non en même temps, car ce que je le fais pas en première ligne pour quelqu'un. Je crois beaucoup à cette autonomie de l'œuvre aussi. Je l'ai fait moi, mais après il y a une rupture, donc je voudrais que au moment où je le sors de l'atelier, que ça devienne indépendant, autant de moi que des autres. Mais c'est vrai que dans le travail, il s'agit, ce qui me fait réfléchir et enfin aussi à travailler, c'est vraiment la relation à l'autre. Comme dans ce poème, il s'agit de la pente, il s'agit du cœur de mourir, ça s'appelle jet d'eau, donc il y a plein de choses dedans que je trouve absolument magnifiques. Et si on dit pente, ça veut dire aussi, descendre la pente ou monter la pente, c'est les deux, donc c'est déjà une relation.
Comment est-ce que vous êtes arrivée à ces mots-là de Baudelaire?
Je les ai lus récemment et elles m'ont touchée. Et il y a aussi, je trouve, en les lisant et relisant, une touche d'humour dedans. Peut-être pas dans le poème même, mais dans la réception. Comme... Il y a une pièce aussi dans l'exposition qui s'appelle « Too sad to tell you ».«
Trop triste pour te dire ».
Oui, qui est à la fin de l'exposition et qui, je trouve, comme une parenthèse, ce poème et cette pièce qui parle d'une certaine tristesse, mais c'est presque aussi un peu cette tristesse, cette plainte, peut-être aussi comme dans la chambre de l'adolescent.
Vous voulez dire un tout petit peu romantique ou romantisé d'une certaine manière?
Oui, mais sincère, complètement sincère, mais aussi dans un état de solitude. Et il y a toujours les deux, cet état de solitude et l'homme avec un grand H qui appartient à un groupe, à une société, à une population.
Qui est une forme, enfin en tout cas ça pourrait être l'un des fils rouges de votre travail plastique depuis des années, Katinka Bock, justement, cette réflexion ou cette tension entre la condition humaine, pour en employer des grands mots, et puis voilà, notre organisation un peu pratico-pratique collectivement. Mais puisque vous citez le titre de cette dernière pièce, je pense que c'est intéressant de voir que vous avez un jeu ou une attention particulière portée au titre que vous donnez à vos œuvres. Ça occupe quoi comme place dans votre travail? C'est à la fin? Ça dirige? C'est au début? C'est une intuition? Comment ça se passe?
C'est souvent un mélange de tout ça. Parfois, il y a des phrases ou des mots que j'entends, que je lis, que j'écoute dans une chanson, que je trouve super et qui reste... comme une ritournelle dans la tête. Et à un moment donné, quand je fais une pièce, je me dis, c'est les deux qui vont ensemble. Et parfois, c'est très descriptif. Les titres peuvent aussi seulement désigner le lieu où je me trouve, ou le moment, à 8 heures du matin.
Parc de Belleville, par exemple.
Parc de Belleville, où j'ai trouvé quelque chose. Ça peut être extrêmement pragmatique que très... très, très ouvert, philosophique ou au romantique. Mais il y a souvent un retombé vers le contemporain, le moment, le maintenant. Alors je fais, je regarde, je marche, je suis là.
J'aime bien cette idée d'être quelqu'un qui appartient à l'instant et de travailler cette notion de l'instant. L'instant à la fois sur le plan physique, hein, sur le plan aussi après plus symbolique, sur le plan de la rencontre. Et puis après ça sur un plan plus idéologique, sur le fait d'être quelqu'un qui cherche pas à se transformer en objet, qui reste un sujet périssable, mortel, et qui s'attache justement à travailler ses instants et à les reproduire, à les recommencer tout le temps, comme un boulanger refait son pain tous les matins, sans espérer trouver un subterfuge qui le rende immortel ou qui lui permette de se transformer en objet, c'est-à-dire de substituer son sujet à un objet. Et donc, effectivement, ceux qui prennent ces sons, ces musiques et qui les mettent sur des supports de telle façon à pouvoir les revendre, je suis très content qu'ils le fassent, ça me permet d'écouter de la musique chez moi, mais je trouvais ça bien qu'il y en ait un qui ne le fasse pas, surtout en ce moment, surtout pour se reposer la question. En fait, ce qui m'intéresse, c'est la question. Plus que moi-même. Ça m'intéresse de nous reposer la question de savoir est-ce qu'on peut encore être périssable, est-ce qu'on a le droit d'être périssable, est-ce qu'on a le droit d'être mortel. Et donc, je trouve que c'est une idée qui est intéressante, qui nous repose la question de qu'est-ce que nous faisons, de la consommation, du temps et tout ça. Et je lui donne un corps qui est le mien. Je trouve ce rapport au temps assez intéressant. J'en fais pas une règle, j'en fais pas un dogme, j'en fais pas une théorie. J'en fais une expérience sensible que j'incarne.
C'est la voix du musicien Nicolas Frise en 2007 dans l'émission Surpris par la nuit. C'était une émission qui était consacrée à l'éphémère et puis on entend bien qu'il a une relation particulière avec cette idée-là, l'éphémère. En même temps, c'est quelqu'un qui improvise beaucoup, qui a fait beaucoup avec les endroits dans lesquels il se trouve. Mais il dit, et si on écoute la totalité de cet extrait d'Archivina, que de sa manière, la question qu'il adresse, c'est une question sur la durée, sur le temps, sur qu'est-ce que c'est. C'est quelque chose qu'on dit beaucoup à propos de votre travail, Katinka Bock, que finalement, la durée, que ce soit la durée d'une exposition, la durée d'un geste, la durée d'un matériau, c'est aussi quelque chose qui vous intéresse. Alors ce serait dans quel sens? Dans quel sens vous êtes intéressé au temps? Vous avez du temps pour y répondre.
Peut-être c'est ce temps qui... peut-être le contemporain, le maintenant, l'aujourd'hui, l'instant, il est composé d'un passé, d'un futur, d'un aujourd'hui et d'un aujourd'hui. Donc je crois que le maintenant, ça se double. C'est le plus fort. Et j'aime bien quand on mélange les cartes, quand on ne sait pas très bien quand elle est le futur, quand elle est le passé. Et dans les expositions, par exemple, parfois je place le moment de la production dans l'exposition. Et c'est-à-dire, prenant la matière de la céramique que je travaille beaucoup et qui est extrêmement lente parce que on la forme et après elle a besoin de sécher 6 mois, 2 mois et seulement après on peut la cuire. Et après, la cuisson prend 1 semaine, on ouvre le four et encore là, il faut baisser la température, ça prend encore 2 jours avant qu'on puisse vraiment ouvrir cette porte. Et ça, c'est génial, c'est un retardateur. Et parfois, je place ce moment dans l'exposition, c'est-à-dire la pièce, elle est faite, mais elle n'est pas finie, elle sèche. Et seulement quand on démonte l'exposition, je prends cette chose qui est sec, mais pas encore cuite, et je la cuis après. Et c'est une deuxième vie qui commence dans une future exposition. Et pendant la cuisson, souvent, elle se déforme, ou parfois elle casse, ou elle devient quelqu'un d'autre. En tout cas, il lui arrive quelque chose. Parfois, ça pose un problème, parce que si je fais une photographie de l'exposition, on voit une situation qui ne pourra pas exister après, Pourtant, c'est la même pièce. C'est juste qu'on a changé. Et il y a aussi des pièces qui sont exposées à la météo pendant l'exposition. Donc, ils pourrissent ou ils prennent une patine, un cratère ou une montagne devient un cratère. Il se passe des choses dans l'exposition, mais d'une manière pas très spectaculaire au final. Ou il y a aussi des pièces qui sont dans l'exposition, mais on les voit pas parce qu'ils sont sur le toit. Ils sont là, ils enregistrent le temps, comme une pièce qui est dans l'exposition à Paris, qui enregistre le temps écossais à Glasgow de l'année dernière. Et c'est seulement une année plus tard à Paris qu'elle apparaît dans l'exposition. J'aime bien mélanger tout ça.
Ça me fait penser tout ce que vous dites, Katinka Bock, à la dernière pièce. Alors, on a parlé de la toute dernière œuvre, hein, s'il y a une sorte de chemin, qui est une avant-dernière œuvre, alors, on va dire. Un tuyau sort du mur, et puis juste en dessous de ce tuyau, il y a une sorte de petite motte de sable, plusieurs petites mottes de sable, dont une posée sur une table, et semble avoir été creusée par des gouttes d'eau, un filet d'eau, mais qui ne tombe pas, et qui crée un cratère dans le sable. Si bien que, par exemple, une partie du temps qu'on passe à regarder cette pièce est passée à se demander, l'eau était là quand ? Quand est-ce que ça a eu lieu ? Est-ce que ça va continuer plus tard ? Est-ce qu'il y a vraiment de l'eau dans ce tuyau ? Ou peut-être qu'il n'y en a jamais eu ? Est-ce qu'elle l'a juste fait avec un mini arrosoir ? Donc il y a plein d'incertitudes qui se passent autour de cette toute petite indice du sable creusé par l'eau.
Oui. Vous n'avez pas vu l'autre partie que vous auriez pu voir si vous auriez demandé. Et mais ça aussi, c'est beau de rater quelque chose, de pas trouver la clé en fait, parce que la clé c'est un entonnoir qui est à l'extérieur. Ce tuyau qui disparaît dans le mur blanc traverse la vitre et qui se termine dans un entonnoir en cuivre. Et quand il pleut dehors, cette fontaine est activée. Il pleut aussi à l'intérieur, donc ce tuyau emmène la pluie dans la galerie et il pleut goutte à goutte ou dans un plus grand flot sur cette montagne de sable qui devient un cratère, effectivement. Ouais.
Ça veut dire qu'il y a plein de choses aussi qui sont un peu comme en coulisses. Par exemple, il y a une autre pièce qui traverse un mur aussi. Il y a comme deux fentes dans un mur avec deux œuvres assez planes et qui donnent envie d'aller voir de l'autre côté du mur ce qu'on peut faire. Là, pour le coup, je l'ai fait. Je ne sais pas si je suis passée à côté, mais en tout cas, je suis rentrée dans la toute petite salle. Et là, c'était un espèce de non-lieu, quoi, avec des tuyaux, avec des trucs qu'il y a derrière les murs, quoi. Enfin, pas du tout un mur blanc de galerie parfait. Comme si ça vous intéressait aussi de dire il y a quelque chose derrière.
Exactement. Il y a toujours quelque chose derrière. En fait, j'ai juste enlevé la porte et j'ai placé la porte en 90 degrés, un mètre plus loin. Ce qui a fait que j'ai grignoté une partie du couloir, donc derrière les coulisses de la galerie, qui fait partie maintenant de l'exposition. On s'est juste déplacé un peu. C'est comme dans une rencontre avec quelqu'un, parfois, peut-être souvent on devrait se déplacer un peu pour changer d'angle. Et c'est ça qui est proposé dans l'exposition et les deux céramiques que vous nommez, moi je les vois comme des lettres et elles s'appellent lettres pour D et D. Une fois c'est un grand D et un D majuscule et minuscule. Et c'est une lettre qui m'accompagne beaucoup parce que c'est le doute et la décision. J'envoie souvent à moi-même ces deux lettres qui passent de l'autre côté.
Ouais. C'est beau parce qu'il y a aussi un très beau texte André Gorz qui s'appelle Lettre à D et qui est une lettre à une femme qu'il aime. Et c'est aussi possiblement, je ne sais pas si vous connaissez ce texte-là, mais comme une forme de sous-texte possible à cette double sculpture.
Exactement, oui.
C'est vrai ?
Oui.
Katinka Bock, on va écouter César.
La terre, la cire... Le plâtre, hein. Bon, vous pouvez travailler pendant des années avec des matériaux. Et d'ailleurs, ce sont des matériaux d'actualité, de tous les jours, ces matériaux. La terre, le plâtre Et la cire, c'est encore des matières. C'est pas la matière qui fait le procès. C'est pas la matière qui fait le contenu. On s'en fout des matériaux. Bon, moi, j'ai été vers des matériaux pauvres parce que j'ai été au déchet. Je me suis retrouvé dans des conditions. Bien sûr, ça m'embête de dire ça parce que j'ai l'impression de faire un numéro et de me répéter et tout ça. Vous savez, c'est la vie qui m'a amené que j'ai quitté la rue Bonaparte pour aller à Saint-Denis-Ville-Tanneuse, dans un endroit où j'étais rencontré des amis qui m'avaient hébergé chez eux, où il y avait des matériaux, des rebuts d'une petite industrie métallique. Alors j'ai commencé à utiliser ces rebuts et à découvrir, si vous voulez, d'autres techniques que celles que j'avais dans l'atelier de la rue Bonaparte. Et automatiquement, j'ai découvert, si vous voulez, un monde. J'ai découvert aussi un langage du matériau. Il est certain que quand je pose ma main sur une motte de terre, eh bien, la réaction chez moi n'est pas la même que si je la pose sur sur un bloc de marbre ou sur un paquet de plâtre, ou si je la pose sur chaque matériau, si vous voulez. Il y a une espèce de communication entre le toucher et ma cervelle, si vous voulez.
France Culture, par les temps qui courent. La voix du sculpteur César en 1976, Katinka Bock, qui se contredit dans une seule phrase, qui se déplace lui aussi, commençant par dire « bon, finalement, c'est pas très important le matériau », et en fait, dévoilant ensuite que c'est déterminant un matériau, qu'un matériau entraîne pour lui un geste singulier, et qu'en changeant d'atelier, en changeant d'endroit dans l'Île-de-France, ben, il a aussi découvert un nouveau monde. Des matériaux, il y en a différents dans l'exposition que vous présentez en ce moment à Paris, et puis dans votre parcours de plasticienne et de sculptrice aussi. Alors vous, vous entretenez quoi avec les matériaux? Est-ce qu'il y a un choix? Est-ce qu'ils déterminent des gestes?
Ah oui, beaucoup, beaucoup. Mais d'abord, c'est vraiment magnifique, hein, l'extrait, parce qu'on a le droit de se contredire et on a aussi le droit de changer d'avis. Et je crois que ça, c'est déjà une première matière, la pensée, les mots qu'on pose sur les choses ou sur les matières. Et ça nous parle, ça me parle en tout cas beaucoup. Et j'essaye toujours d'écouter mes sculptures et aussi les matières. Et chaque matière a d'autres limites et d'autres qualités. Et c'est vraiment des partenaires. Et si c'est la céramique, elle est géniale parce qu'elle n'a pas de préforme. Elle est comme du beurre, comme la glace. Ça a toujours besoin de c'est comme de l'eau. C'est une masse, mais ça a besoin d'un conteneur ou de devenir conteneur. Le bois, c'est différent parce que l'arbre est toujours un peu là. Et soit c'est l'arbre à la verticale qui la verticalité ça appartient à l'homme, ou l'horizontalité c'est tout de suite c'est un peu un bateau déjà. Je trouve que chaque matière emmène pas seulement une qualité à des outils mais aussi à des notions d'espace et
ou des qualités imaginaires si on vous écoute, oui. Parce que finalement vous dites aussi combien très rapidement il y a des choses qui nous viennent. Un morceau de bois, s'il est à l'horizontale, assez rapidement on va aller chercher un bateau. Oui. C'est plus fort que nous.
Oui, alors parce qu'on sait que ça flotte quand on le jette dans l'eau, et on l'a peut-être déjà fait, construire un radeau, ou on connaît tous des films et on connaît, on sait, oui. Et c'est vrai, ça rentre dans la matière, ça imprègne la surface et ça va dans le corps.
Évidemment, on choisit aussi César parce que la sculpture, est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé comme ça pour vous? Est-ce que vous vous êtes dit, je vais faire ça, c'est ça qui m'intéresse, je vais faire de la sculpture?
Oui, Alors, je crois que dans mes souvenirs, c'est toujours ça qui m'a intéressée le plus. Aussi, comme enfant, j'ai souvent bricolé, fait des choses, dessiné aussi beaucoup, bougé, dansé. Mais la couleur, non. Ça m'a pas intéressée aussi. Et c'est quelque chose qui m'est resté très, qui m'accompagne depuis. J'ai découvert les couleurs aussi maintenant, mais plutôt, je remarque seulement maintenant que tout a une couleur en fait. C'est qui est évident, mais c'est assez récent que je le vois d'une manière consciente. Et la matière, oui, à chaque moment que je me suis déplacée pour vivre à un endroit ou à un autre, à des moments aussi où j'avais un atelier où j'en avais pas, où j'ai déménagé l'atelier, mais aussi seulement où j'ai changé le centre de ma vie, de déménager d'une rue à une autre, dans la même ville ou d'un pays à un autre. Chaque fois, c'est autre chose qui est rentré dans le travail. Pas seulement d'une manière imaginaire, mais aussi dans la matière même. Et j'ai une certaine fidélité à certaines matières que j'aime vraiment beaucoup, mais aussi je découvre d'autres aussi, comme César qui décrit, il a découvert des objets dans la rue et qui l'ont intéressé et du coup il fallait qu'il en fasse quelque chose. Cette guitare qui est dans l'exposition à la fin, qui rencontre des chaussettes seules. Cette guitare, je l'ai rencontrée devant mon atelier la veille du début du montage. Alors, je l'ai pris et je me suis dit, elle était pour moi, là. Elle avait plus de cordes. Et une autre fois, j'avais déjà trouvé une autre guitare quelques années précédentes à Berlin. Et là, c'est pareil. Je l'ai vue, je l'ai pris. Et pourtant, c'est rare que je prélève quelque chose dans la rue. Et je sais pas pourquoi je l'ai fait.
Parce qu'il y a des choses qui, d'une certaine manière, sont destinées, sinon à vous, en tout cas à votre travail. C'est comme une forme de rendez-vous. Vous parliez tout à l'heure de l'instant, et j'ai noté cette phrase, je ne sais pas si c'est exactement ce que vous avez dit, mais « je fais, je regarde, je suis là ». Ça renvoie aussi au titre d'une œuvre qui est « 8 heures Belleville ». C'est vraiment un rendez-vous. Et en fait, par exemple, là, c'est une sorte de prélèvement pour cette œuvre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, cette œuvre, elle apparaît sous plusieurs formes. Une fois, c'est une photographie d'un ballon de foot qui est éclaté. Et ce cuir est au sol et c'est photographié. C'est comme une cartographie un peu. Après, ces bouts de cuir, je les ai... j'en ai fait une sculpture en bronze. Et ces éléments sont sur un mur qui se donne rendez-vous avec d'autres éléments en céramique. Et il y a un troisième qui est un autre ballon qui a encore un peu plus la forme d'un ballon, qui se tient sur une colonne comme un totem ou un penseur peut-être. Et ce rendez-vous, le titre c'est Belleville, 8 heures Belleville, parce que souvent le dimanche matin, je vais avec mes enfants dans le parc de Belleville et on joue au basket. Et sur ce terrain de basket, on trouve souvent des ballons de foot cassés.
Est-ce qu'il y a des matériaux que vous avez abandonnés ? Vous disiez finalement, il y a des additions comme ça, des choses qui rentrent dans le travail à la faveur ou de manière contextuelle ou contingente. Mais est-ce qu'il y en a qui ne sont plus jamais rentrés ?
Ah, c'est intéressant cette question. Peut-être le plâtre. Et c'est vrai, souvent quand on me parle de mon travail, j'entends ou je lis, elle utilise... le béton, le plâtre, non. Mais c'est pas vrai. En fait, ça va trop vite, les gens regardent pas, ou ils se copient, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a certaines pièces qui ont existé, peut-être en plâtre et en béton, mais je les aime pas tellement, c'est vrai. Ouais, Mais ça me fait penser à un ami qui, Guillaume Leblon, qui a travaillé à un moment beaucoup à la céramique. Et un jour, il me dit, oh là, j'ai arrêté la céramique parce que ça me fait des mains trop sèches. Et j'adore ça. C'est tellement vrai et trivial et en même temps très honnête aussi, parce que si on n'aime pas le moment où on fabrique les choses, on ne peut pas.
Ça me fait penser à ce que vous dites souvent, je ne sais pas si c'est souvent, mais en tout cas qui est marquant, qui est, mais il ne faut jamais oublier que l'art, ça reste la vie. Ça reste quelque chose qui est dans la vie, qui n'est pas extrait de la vie. C'est des choses qui sont remises en circulation dans la vie. Et donc, ce n'est pas un espace à part. Et d'une certaine manière, cette dimension triviale ou ce rendez-vous au parc de Belleville à 8 heures redit cela, que c'est inscrit dans la vie. Est-ce que c'est aussi le cas pour les moments de l'atelier? Vous ne vivez pas ça comme un moment à part?
Ah non, je ne vis pas ça un moment à part, parce que le premier atelier, c'est dans la tête. Et c'est bien sûr, c'est la vraie vie. L'art, c'est jamais la copie ou l'illustration peut-être de ce qu'on pense, qu'on entend, ce qu'on veut dire. Donc, what's the message? Non, c'est jamais ça. C'est sur le même niveau.
Un jour, une de mes sœurs casse son gros baigneur. C'était, vous savez, ces gros baigneurs en celluloïde assez fragiles qui se cassaient. Et donc, le baigneur est tombé par terre. Et j'ai ramassé un morceau de ce corps en 1000 morceaux, j'ai ramassé une jambe, et j'ai entouré la jambe, comme il y avait toujours du tissu, du schmatès à la maison, cette jambe avec un bout de tissu. Et grâce à cette transgression, en fin de compte, j'ai pu créer ma poupée. Donc avec cette jambe et ce bout de tissu, je passais inaperçu, ma poupée passait inaperçu. Et des fois, je ramassais une branche aussi, ou un bout de branche que j'entourais aussi de tissu. Et j'avais compris que je pouvais créer ma poupée. Et des fois, quelque chose d'assez étrange même encore pour moi, j'enterrais ma poupée. Je la mettais dans la terre. Et après, j'essayais de me rappeler où je l'avais enterrée. Des fois, je la retrouvais pas. Et des fois, je retrouvais ce que j'avais enterré. Et quand je déterrais la poupée, ce qui était extraordinaire, j'étais déjà fasciné par la métamorphose de la pourriture et de l'odeur. Vous l'expliquez, je sais pas, mais j'ai des souvenirs d'extase devant la transformation de la poupée, l'extase de la pourriture et de l'odeur.
C'est la voix de Michel Nedjar au micro de Laura Adler en 2016, Katine Kabok, qui raconte cette histoire de poupée, parce qu'il y a dans cette exposition que vous présentez en ce moment à Paris, à la Galerie Jocelyn Wolff, plein de moments où, de manière consciente et inconsciente, on est ramené à des morceaux de corps. Vous évoquiez tout à l'heure la dernière œuvre, donc, avec cette guitare sans cordes qui a rendez-vous avec des chaussettes. Mais aussi, d'une certaine manière, ce petit dallage de cuir qui provient d'un ballon de foot éclaté. Assez rapidement, il va y avoir le coup de pied qui va nous arriver en tête. Il va y avoir ce geste-là, il va y avoir peut-être le geste de votre main qui fait que une céramique et une matière vient se refermer. Il va y avoir une sculpture posée au mur avec quelque chose qui, moi en tout cas, a appelé ou bien des bras ou des jambes avec des chaussures. Bref, il va y avoir des morceaux de corps un peu comme sortant du sol ou sortant dans l'espace ou... Et c'est aussi ce que raconte Michel Nedjar dans cette archive. Comment est-ce que vous l'avez pensé, ces espèces de surprises de corps, d'une certaine manière?
Le corps, c'est ce qui, c'est notre première rencontre. On sait ce qu'on voit quand on baisse le regard, et c'est avec ça qu'on touche, qu'on arpente le sol, et avec lequel on est en contact avec quelqu'un d'autre ou la vie. Alors c'est important. Ça nous tient debout ou on attrape. Donc tout ça, je pense pas tous les jours, mais c'est la base de l'être. Et parfois, il y a des moments où je les vois d'une manière plus consciente, comme par exemple la position du soir, de s'allonger et les mettre les jambes contre le mur pour se reposer. Ça s'appelle sculpture du soir. Mmh. Et il y a aussi une sculpture qui s'appelle I and I, Ahab's Sister. Donc, le capitaine Ahab, non, dans Moby Dick, il lui manque une jambe. Donc souvent, aussi, sculpture du soir, il y a deux jambes, mais il y a seulement une chaussure. Donc, les questions de cette chaussure ou ce pied en bois qui n'y est pas. Et les chaussettes sur la guitare sont tous, sont bronze d'ailleurs, mais ce sont tous des chaussettes éparpillées, on dit. Donc les chaussettes solo, ceux qui, quand on ouvre la machine à laver, et bizarrement, on a mis deux chaussettes dedans et il y en a seulement une qui ressort. Et cette bassine de chaussettes où il en manque une, beaucoup de gens les connaissent et moi je les garde, toujours dans l'espoir de retrouver. Alors peut-être dans ces histoires de corps, il s'agit souvent de cette partie qui n'est pas là, qu'on a perdu et qu'on cherche ou qu'on accepte tout simplement qu'elle n'y est plus.
Comme ce qu'on peut appeler finalement le membre manquant, des personnes qui se sont fait amputer et qui ont comme une forme de conscience persistante du bout qui n'est plus là. En effet, puisque je parlais, c'est un peu différent, mais puisque je parlais du coup de pied qui est appelé dans la sensation par le ballon, oui. C'est bien ça, c'est bien le reste du corps qui n'est pas là, mais qui continue de parler, quoi.
Exactement, c'est ce fantôme. Et je crois beaucoup à ça, que même si on n'est pas là, ou si cette chaussette ou cette pied n'est pas là, il est quelque part, on est toujours en contact, et c'est comme un satellite qui nous parle d'un ailleurs.
Puisque vous évoquiez ces chaussettes esselées, qu'on connaît, ça nous emmène sur le terrain de la solitude. On parlait brièvement de l'atelier Katinka Bock, mais on peut parler du travail de sculpture. Parfois, des artistes peuvent travailler à plusieurs, avec des assistants ou des assistantes. Qu'est-ce qu'il en est de vous? Est-ce que vous avez un rapport comme ça de I and I, justement, avec la sculpture? Est-ce que vous partagez ce rapport-là? Comment ça se passe?
Je travaille beaucoup seule, c'est vrai. En tout cas, les moments où je travaille le bois ou la céramique, où j'assemble les éléments, c'est souvent moi seule, et c'est aussi souvent les poids, les dimensions sont un peu en relation avec ça, ce que je peux lever, ce que je peux tourner ou me trouver des astuces à faire. À lever quelque chose, mais j'en fais pas un dogme. Et parfois, oui, je travaille avec des assistants si une technicité ne me vient pas naturellement ou avec mes capacités, je me cherche de l'aide. Ou il y a certaines choses que je n'aime pas tellement faire. Et
comme quoi, par exemple?
Par exemple, j'aime pas du tout faire appel à d'autres gens pour avoir des informations, par exemple. Donc les social media. Et donc si je suis parfois à la recherche d'un objet précis, ou je peux demander à mon assistante
demander à quelqu'un d'autre.
Ça s'appelle Facebook au final, ou je sais pas, bon coin, ou j'en sais rien, mais toutes ces choses là j'aime pas tellement être coincée derrière un ordinateur pour rechercher. Je préfère les lire dans les livres, mais je ne l'exclus pas, ça fait partie de notre vie. Alors, parfois, j'ai de l'aide comme ça, ou je travaille fidèlement avec certains artisans. Et voilà. Et après, c'est vrai, le moment, après ce moment un peu plus solitaire dans l'atelier, j'aime beaucoup le moment du montage.
C'est ce que j'allais dire. Il y a un moment où forcément cette solitude se rompt. C'est le moment où il faut dialoguer avec l'institution, l'endroit ou même l'espace public qui vous accueille.
C'est génial. J'adore. J'aime les gens, même si je viens de travailler seule. C'est toujours un moment de changer d'avis aussi et d'agrandir et d'accélérer. C'est super. Donc, les moments de montage et de dialoguer avec des institutions, avec un curateur, mais aussi avec le team de montage, c'est très riche.
Est-ce que ça va jusqu'à un dialogue avec l'espace? Tout à l'heure, en début d'entretien, on parlait de cette circulation-là, un peu intuitive pour chacun, ou la manière dont vous l'avez pensé, qui agit sur nous. Est-ce que vous diriez que, en fonction des endroits où vous allez, eh ben, c'est une autre forme de dialogue? Peut-être pas avec les mots, peut-être pas avec les emails, mais que quand même, vous n'auriez jamais fait cette exposition ailleurs.
Ah, ça, c'est sûr. C'est toujours le point de départ. C'est la base, c'est le... La base, c'est le sol, donc c'est un sol précis. C'est toujours un lieu précis. Une exposition, même si c'est une exposition qui voyage, elle est toujours repensée une deuxième fois. Elle n'est jamais de la même manière ici que là-bas. Et sans avoir visité un lieu d'exposition, je suis un peu comme bloquée et constipée. J'ai besoin de voir les espaces pour après penser l'exposition et aussi très pratique de trouver des solutions à des problèmes ou me créer des propres problèmes spatiaux.
Par exemple, j'ai demandé, moi, à la personne qui nous a accueillis hier, s'il y avait tout le temps ces espèces de parois qui
les sont... filets.
Ouais, oui. Juste à un tout petit espace du mur et pas partout. Et pour vérifier que justement c'était quelque chose qui était votre geste, et on m'a dit que oui. Et la personne m'a dit oui, c'est une parenthèse. Et je me suis dit, ah donc c'est vraiment quelqu'un, Katinka Bock, qui a décidé que l'espace c'était aussi presque une feuille de papier sur laquelle on pouvait utiliser le vocabulaire qu'on utilise quand on écrit des phrases.
Oui, d'une manière, oui, c'est vrai. C'est un peu comme ça que je perçois une exposition, c'est comme un texte. Et j'ai des mots, parfois seulement un alphabet, et après il faut trouver la phrase ou écrire un texte avec des pauses, des espaces entre, des parenthèses, des répétitions, une musicalité, tout ce qu'on peut dire sur un texte. Je pense un peu à ça pendant que je fais une exposition. Et mais ça se transcrit d'une manière très précis chaque fois. Il faut que ça devienne pas une théorie. Ça sert à rien d'en parler si ça se propage pas vraiment tout seul dans une exposition. Et ces filets que vous avez vus, c'est ce filet de chantier qui est normalement autour des immeubles, des bâtiments qui sont en restauration. Et ça fait des années que je les regarde et je les trouve absolument élégants et majestueux, ces bâtiments emballés, habillés comme ça. Pourtant, derrière, c'est le chaos et la destruction totale. Et là, je me suis dit, c'est le moment pour emmener un filtre, quelque chose de technique, mais autant aussi sensible dans l'espace. Mais la vraie raison était très banale aussi, parce qu'il y a un mur en pierre sur la gauche quand on entre, que j'aime pas tellement. Et il me dérange. Et je voulais trouver une solution pour ça.
Voilà. Puisque vous parlez de répétition, j'aimerais bien que vous reveniez sur ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir, dans le temps, il y a un passé, il y a un futur, il y a un aujourd'hui et il y a un aujourd'hui. Mm-hmm. Ça veut dire quoi?
Peut-être que c'est comme le texte qu'on a entendu aussi précédemment sur le faire et le refaire, comme le boulanger. On fait tout le temps les mêmes, souvent les mêmes choses en tout cas. Et on a ses habitudes, mais aussi dans la sculpture. Je fais souvent les mêmes gestes, et pourtant, il y a toujours un décalage. Donc, le maintenant n'est pas le maintenant de maintenant. Et si on veut, Deleuze, la répétition et la différence dans la répétition, que je trouve très juste à la vie. Je trouve que ça explique très bien la vie. Et ces erreurs, ce qu'on pourrait justement nommer comme une erreur, est une chance, parce que ça nous dit qu'on peut changer, qu'on peut évoluer. peut-être je peux expliquer ça dans une pièce qui s'appelle Calenda, qui sont des pavés en céramique qui sont bleus, avec un émail bleu, et il y en a 100. Et elles sont dans l'espace d'exposition, l'un après l'autre, au bord. Et tous les jours, quelqu'un, donc c'est souvent le gardien, qui prend la dernière et qui le pose au début. C'est comme un serpent, non, c'est pas un serpent, comment ça s'appelle, une raupe, qui
une limace,
peut-être, en tout cas un animal.
Oui, c'est ça, qui se rétracte, qui se...
Oui, voilà, ouais. Une
chenille.
Une chenille, voilà, une chenille qui arpente l'espace, qui fait peut-être un tour pendant l'exposition. Et tous ces pavés, ils se ressemblent tous, mais ils sont pas pareils, parce que j'ai fait tous les jours un pavé comme ça, et j'ai essayé de refaire le lendemain le même. Mais j'ai pas regardé le précédent. C'était juste par prendre un peu de terre, le tapoter, tac, 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 tac. Et refaire après la même forme. Bon, c'est une sorte de cube, c'est pas si difficile, mais à la main. Et la même quantité, donc la même taille aussi au final. Et ça fonctionne sans fonctionner.
Une mélodie pour chanter l'amour, une qui serait jolie, qui le serait toujours, une qui serait toujours belle, nouvelle, une qu'on chanterait encore et encore jusqu'à notre mort. Une mélodie, celle du bonheur, qu'on aurait appris et qu'on chanterait en chœur. Où faudrait qu'elle soit forte, oui qu'elle porte loin, jusque dans les hauteurs, en couleur porte un bonheur, bonheur. Une mélodie sans fausse note aucune, qu'on chanterait ici au clair de la lune, oui mais même sous l'orage des nuages, même pendant la tempête, on trompette ce même message. Mais faut pas qu'on oublie avec le temps ce thème, faut pas qu'il s'enfuit dans le vent ce poème. Cette mélodie, comment on l'écrit? Donnez-nous le la, fa, si, do, ré, mi, et donnez-nous le ton, le bon, et donnez-nous la clé de la chanson.
C'est pas facile de faire une mélodie pour l'amour, Mathieu Bogart à l'instant, Katinka Bock. Pendant que j'écoutais la voix et les mélodies de Mathieu Bogart, je prenais en note, j'avais la feuille des titres devant moi, et donc je vais en lire certains. Let for D and D, une autre One and One, une autre Receiver and Receiver, une autre Frida and Friedrich, une autre A and I. Alors en fait, ça n'est que ça. Non mais je veux dire, c'est peut-être pas que de l'amour, mais en tout cas, il y a beaucoup de duos, il y a oui. beaucoup de couples, il y a beaucoup de relations, quel que soit, ça se trouve, ça peut être deux gosses qui jouent, ça peut être un homme oui. et une femme et une femme qui s'aiment, enfin, en tout cas, je me suis dit, tiens, c'est marrant, quand même.
Oui, c'est vrai, je pense que je l'ai pas, c'était pas programmé, mais en tout cas, ça, je pense que c'est peut-être c'est souvent dans tous les cas dans les titres, mais dans particulièrement peut-être maintenant dans cette exposition. Pourtant, elle s'appelle Tea Toxic, donc il y a aussi affaire de vénin, de contamination et tout ça. Oui, l'amour, parfois aussi des faux amis comme Frida und Friedrich, qui ça, c'est comme sucre et sel. Quand on le voit, c'est blanc et blanc. Et Frida und Friedrich, c'est...
Vous pouvez la décrire, cette œuvre, pardon ?
Frida und Friedrich, c'est comme un socle en métal, deux socles en métal. Et dessus sont posées des formes en céramique, 2x2. 2 fois, ce sont comme des cylindres creux. Et ils sont tous un peu déformés, un peu écrasés, mais retrouvent quand même forme contre forme l'un avec l'autre. Et ça se répète en soi, un et un, et une autre fois, un et un. Donc on les voit, ils se parlent, mais ils se ressemblent aussi. C'est un peu des jumeaux, mais sans l'être, parce que quand on regarde... Ils n'ont pas vraiment la même couleur, ils ont des déformations différentes et ils regardent dans des directions différentes. Et c'est comme dans ces mots qui, Frida und Friedrich, les prénoms, qui n'ont pas du tout les mêmes origines. Un s'écrit avec I-E, Friedrich, et la Frida, elle a seulement un I, et pourtant, quand on les prononce, on a l'impression que c'est comme François et Françoise.
C'est comme oui. des fausses ressemblances. Si on reprend l'œuvre Letter for D or D, le D minuscule ou le D majuscule, ben on pourrait considérer que oui, allez, c'est pour le même D, alors que non, c'est pas du tout pour le même D. C'est le D minuscule et le D majuscule.
Exactement. Ce sont deux lettres différentes. Et je dirais le doute à le grand D et la décision le petit D. Mais ça appartient à chacun, au final.
En vous écoutant parler de cette répétition et du 1 et du 1, évidemment, c'est quand même assez tentant d'aller voir du côté des mathématiques ou du langage informatique, ou même parfois d'une manière de coder. La manière très basique de coder, c'est de coder avec du 0 et du 1, justement, et la répétition des 1 et la répétition et l'alternance des 0 et des 1. Quel est votre rapport avec ça, avec la mathématique ou avec les lois physiques, Katinka Bock? Parce qu'il y a plein de moments aussi où on regarde l'équilibre des choses et des masses dans vos expositions.
Oui. C'est un lien, mais c'est toujours dans l'expérience. C'est pas dans le calcul qui précède. C'est j'adore la mathématique et aussi la physique ou la chimie, mais à un stade amateur. J'aime le souci de pas pouvoir faire entrer une œuvre dans une exposition parce que la porte est trop petite ou l'œuvre est trop grande. Donc on peut calculer le diamètre et on peut calculer la taille maximale de la pièce pour qu'elle puisse rentrer. Je crois que si on pose cette question trop tôt, on perd beaucoup. Alors la physique et la mathématique m'intéressent plutôt au moment où soit où je la comprends encore ou en la rencontrant dans notre vie.
Ça veut dire qu'il y a des œuvres qui restent à la maison ou qui restent à l'atelier parce que franchement désolée mais c'est plus possible, on peut pas les faire passer par la porte.
Bah en tout cas c'est vraiment quand on fait une exposition dans une institution, c'est une des premières questions que je pose. Quel est l'accès? Et parfois, c'est comme ça que naissent aussi les œuvres avec un certain vénin dedans aussi. Par exemple, dans le Kunstmuseum Luzern, c'est un bâtiment de Jean Nouvel. Et le musée se retrouve au premier... Non, je ne sais pas quel étage, mais en tout cas en hauteur. Et l'accès, c'est avec un monte-charge qui arrive dans les salles. Et il est petit, relativement petit, en tout cas pour un grand musée, et c'était, je pense, seulement 4 mètres. Et je me suis dit, je vais faire entrer une œuvre qui est bien trop grande. Et c'était un mât de bateau de 12 mètres. Alors, on a joué chat aux souris avec les gardiens, les services de sécurité, parce qu'en plus, dans ce bâtiment, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. On ne pouvait même pas lever légalement, officiellement, ouvrir une fenêtre et faire entrer par l'extérieur le mât de bateau. Alors, première tentative, monter le monte-char tout en haut et le tirer d'en bas avec une corde en haut. On a été attrapés, on ne pouvait pas le faire. Deuxième essai, c'était ce qui a fonctionné, c'était en contact avec un pompier de la ville qui avait cette fameuse clé qui ouvrait une fenêtre. Alors, on a trouvé un moyen de se procurer de cette clé pour faire entrer l'œuvre. Et après, après l'exposition, il y avait la question, comment le faire sortir? Parce que notre trick, on voulait pas le refaire.
Le dévoiler, en plus.
Le dévoiler, mais je voulais pas non plus que le mât soit découpé. Et j'ai offert l'œuvre au musée. Et il fallait qu'il se trouve un autre moyen.
Il y a une œuvre, et puis on terminera par ça, qui laisse voir des tout petits noyaux dans une grande cuillère en bois, on pourrait dire comme ça, Katinka Bock, dans la galerie en ce moment, à Josselvoff à Paris. Et c'est aussi là qu'intervient, pas que, mais le rapport toxique. On se dit peut-être si on avait mangé ces fruits-là, ou si on mangeait les noyaux, quelque chose de dangereux nous serait arrivé. Ou c'est la trace de la toxicité. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur cette œuvre-là, justement? Pas trop.
Il y a un peu la sorcière dedans, bien sûr, celle qui offre le remède ou le poison. Et après, ce sont des questions très classiques aussi d'une colonne qui porte une sculpture, et là c'est une cuillère que j'ai sculptée en bois, une énorme cuillère qui est couchée. Donc une colonne, souvent elle est là pour recevoir quelqu'un qui est debout, et là la cuillère n'est pas debout, elle s'allonge, elle se repose, et elle nous offre ses noyaux en bronze, mais précédemment des cerises et des abricots.
Un grand merci, Katinka Bock. Cette exposition est à voir jusqu'au 15 juin prochain à la Galerie Jocelyn Wolff à Paris. Et puis on peut se procurer, pour ceux qui n'auront pas la chance de le voir, deux ouvrages aux éditions Roma, Pacific et Tomorrow Sculpture. Merci.
Merci beaucoup.
À la prise de son ce soir, c'était Olivier Dupré, à la réalisation et à la guitare, Lise-Marie Barré. Un grand merci à Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre, Marianne Chasseur et Valentin Rémy qui mettent à penser et préparent cette émission tous les soirs. Dans un instant, 22h, le journal de France Culture, et quand vous voulez, franceculture.fr, à la page de Par les temps qui courent. Demain, soirée spéciale Notre-Dame de Paris, à lundi.